Andrea Novikov, Wojciech de Georg Büchner. Alors, sans doute, il ne faut pas expliquer Wojciech, il faut s'y confronter. Son opacité, pour certains, est le miroir de notre propre humanité. Qu'est-ce que, justement, vous apporte cette confrontation avec Wojciech ?
Wojciech, c'est une de ces œuvres auxquelles n'importe quel metteur en scène un jour ou l'autre veut se confronter, parce qu'elles sont tellement vastes et elles permettent de relire le monde, d'être relu en fonction du temps et de l'histoire, et c'est ça la grandeur c'est le chef-d'œuvre. Et donc, on pourrait, Wojciech, comme Hamlet, comme certaines autres œuvres, on pourrait les remonter chaque 3 ans et on en montrer une autre version. Parce que le monde change et elles permettent toujours d'être miroir de ce qui se passe autour. Donc, dans notre cas, voilà, c'est un choix de mettre en scène qui a envie de toucher à ça. C'est une œuvre qu'on y touche seulement si on a une idée, justement, de comment elle peut être porte-voix, porte-parole, amplificateur, haut-parleur de ce qu'on a, nous, on a envie de dire, avec la voix, l'hurlement, je dirais, de Büchner. L'hurlement de Wojciech. Donc c'est souvent question de retrouver quel est le cri que nous on a envie d'émettre et le mettre en consonance avec le cri de Wojciech. Dans notre cas, j'ai eu envie de parler, de me confronter avec l'hémisphère sud de la planète, cette sensation, cette perception du 60% et plus de l'humanité qui a moins de 25 ans, qui se situe dans l'hémisphère sud, cette énorme énergie qui n'a aucune chance et possibilité de trouver de l'espace ailleurs, de trouver de l'espace pour survivre, pour vivre, pour trouver du travail. C'est cette humanité qui traverse la Méditerranée pour y arriver, qui meurt dans la flotte, qui... Cette humanité énorme, cette impossibilité totale de construire ses propres rêves, si on imagine ça, c'est vraiment une perception physique de dire, mais c'est impressionnant, quand j'avais 25 ans, quand j'avais 20 ans, 25, si je ne pouvais pas faire ce que j'aurais voulu faire, mais moi, qu'est-ce que j'en fais de cette énergie? Nous tous, on connaît que c'est, je parle vraiment d'énergie. Donc cette énergie, si elle ne trouve pas son chemin, elle devient autodestruction, rage, violence, ce qu'on veut. C'est une thématique qui me touche. Je l'ai mise en consonance avec Wojciech, avec le cri de Wojciech. Donc notre version va être une version tropicale, disons comme ça. On se situe dans des tropiques utopiques, disons comme ça. C'est les Caraïbes, on a des jeunes, on a Wojciech qui est là au service d'une armée d'occupation. Évidemment, l'armée d'occupation, c'est nous. Que nous on soit que de simples touristes, qu'on soit des coopérants, qu'on soit des onusiens, en tout cas on aide, comme on participe à une entreprise, à un port-export, c'est égal, nous on est cette armée d'occupation sans armes, souvent disons, plutôt l'arme de l'argent économique, et eux sont à notre service. À l'intérieur de ça, Wojciech se retrouve avec sa femme, apparemment, en partie sa femme, qui justement a mis territoire entre lui appartenir ou être séduite et intriguée par cette armée d'occupation. Voilà, dans ce trio classique de Wojciech, je pense qu'on peut parler de notre rapport avec l'hémisphère sud et le rapport de l'hémisphère sud avec nous. Wojciech, c'est un abîme de l'humanité. Pourquoi un homme n'accepte pas, je pourrais dire, n'arrive pas à s'inscrire dans ce que nous on définit civilisation, culture, histoire, communauté, et il n'arrive pas à s'inscrire et il se débat à l'intérieur de ça jusqu'à provoquer sa propre autodestruction ou la destruction autour de lui. Pourquoi un homme n'arrive pas à s'inscrire, ce n'est pas une surprise, on pourrait dire le contraire. Comment ça se fait qu'on arrive à s'inscrire dans des structures telles que civilisation, culture, ce monde, impérialisme, etc., etc. C'est plutôt, moi, ça ne me surprend pas que Wojciech n'arrive pas à s'inscrire, je me surprends qu'à la limite que les autres arrivent à s'inscrire. Donc son cri, j'ai l'impression de le comprendre. Et ce qui peut être intéressant, si on regarde des choses comme ça, c'est que Wojciech dans la pièce ne va pas être exclu du contexte, c'est plutôt tous les autres qui sont exclus de ce cri, qui ne peuvent pas comprendre ce cri. Le fait par exemple d'entendre deux voix, d'entendre un univers parallèle que les autres méprisent. Dans notre version, c'est pour ça qu'on a choisi un petit peu de tropique, on parle d'une culture très influencée par le syncrétisme religieux, comme la Caraïbe. dans lequel on croit beaucoup à la présence des esprits, la présence des ancêtres, la présence de la vie au-delà de la vie apparente des êtres humains. Ça, ce choix est aussi dû au fait de pouvoir créer un territoire autour de Wojtek qui est un territoire totalement conforme à lui. À la limite, il est très très inscrit et simplement un petit peu trop inscrit dans un univers qui existe dans la Caraïbe. C'est plutôt les autres, le blanc, le capitaine, le tambour-major, le docteur qui ne savent pas lire ça. Pour deux raisons. Une, parce que parfois on pense que le monde, le rationalisme soit le centre de l'univers, et voilà, Descartes et ça, mais voilà, ce n'est pas le cas peut-être. Deux, pour protéger Wojtek d'une lecture possible qui le rend un borderline. Il l'est, mais c'est le problème, c'est que c'est la société qui est malade, c'est pas Wojtek qui est malade, si on veut. Ça m'intéresse beaucoup plus de raconter ça. La maladie, c'était pas lui. Lui, au fond, il est seulement trop sensible.
Il y a une chose aussi, puisque c'est la troisième pièce de Büchner, qu'elle a été laissée inachevée. Il y avait une expérience en 2001 à Paris, celle d'Alexis Forestier au théâtre Paris-Villette, qui avait monté les quatre fins alternatives à la file. Quel choix, puisque c'est un merveilleux matériau théâtral, mais à quel choix justement et à quel défi on est confronté par rapport à ces... ces quatre ébauches qu'a laissé Büchner dans la très belle traduction de Chartreux, Vincent et Spreng.
Je crois que c'est vraiment lié à le dialogue qu'on instaure avec l'œuvre. Ça dépend quelle histoire parle.
C'est vrai que Büchner parle ailleurs de la mission qu'il assigne à l'auteur dramatique et il écrit qu'il faut restituer dans ses tressaillements, ses demi-mots et tout le jeu imperceptible de sa mimique l'existence des êtres les plus prosaïques qui puissent exister sous le soleil. Alors, sous le soleil exactement, c'est le choix que vous avez fait. Est-ce que, justement, en le transposant dans les tropiques et en faisant, justement, une balance entre des colonisateurs et des indigènes, est-ce qu'il y avait aussi une vision de dire que le tourisme était une forme de néocolonialisme?
Oui, ben sûrement. Alors, on va essayer d'éviter de faire les pièces à thèse, mais bien sûr, le tourisme est un néocolonialisme. Et j'en parle un moment, on pourrait à la limite le considérer encore pire qu'un colonialisme tout court. C'est parce que ça, c'est un colonialisme mental en partie. C'est avant tout, on transforme la culture de celui, on détruit la culture du peuple dans lequel on va arriver, et après on arrive juste à récolter les fruits. Donc il nous attend comme besoin, le colonialisme ancien, au moins il se confrontait avec une culture qui était tellement forte, encore tellement structurée, que leur pouvoir pouvait être seulement effectué grâce aux armes. Et ils n'avaient aucune possibilité d'appartenir à la culture, tandis que nous, aujourd'hui, on arrive sur un terrain qui a été miné, sur des cultures qui ont été minées par nous-mêmes, par notre puissance. Donc voilà, on arrive après un bombardement, c'est comme vraiment comme des troupes de terre qui arrivent après avoir bombardé par le ciel. Donc le tourisme est une forme de colonialisme, bien sûr. Ça, il n'y a aucun doute. Alors après, on ne va pas faire une pièce à thèse. On montre qu'il y a un grand problème sous la planète. Il y a des cultures, des terres qui pourront nous offrir seulement de la matière première ou matière première corps et jeunesse. Pour de là tout le tourisme sexuel, etc., des matières premières comme ce qui est nécessaire à l'industrie, ou matières premières que c'est le temps libre, le plaisir de la plage. Et il n'y aura aucune possibilité avec cette terre, et c'est un choix du monde riche qui ne veut pas développer autre culture que celle de pouvoir nous fournir ce dont nous avons besoin, le plaisir du temps libre, le plaisir du corps dans une époque hédoniste, et la matière première pour l'industrie. Bien sûr, le personnage du médecin porte en lui, dans cette transposition, porte en lui tout notre regard scientifique vers la planète, je veux dire la planète entière, donc porte en lui l'excès de scientifique, les cobayes, l'hémisphère sud de la planète comme cobaye pour la recherche médicale, l'excès de, je pourrais dire, le médecin peut avoir aussi, même s'il avait une caméra à la main, qui veut tout filmer comme si le monde pourrait être compris par science ou par captation, comme si ça c'est façon de se rapprocher au monde. Il portera en lui tout ce regard absolument froid, scientifique, rationnel, qui parle de ce... Donc, on va voir, mais ça, c'est le plateau de nouveau qui va raconter. Il porte en lui cette absurdité de comprendre le monde par la science. Absurdité, disons. une des pistes possibles, mais portée à l'excès comme toute piste. Et c'est la même maladie que Wojciech, simplement différente, mais, et il n'en meurt pas. Ou pas tout de suite, mais... il y a quelque chose dans les choix, dans la distribution qui est intéressant parce que ça indique déjà un territoire. Bon, d'un côté avant j'ai parlé de la distribution métissée en termes de culture, d'ethnie, d'appartenance. Et après au niveau de caractère, j'ai voulu dans cette pièce essayer d'avoir une distribution assez buchnerienne, je veux dire, assez voïtsekienne, dans le sens de tous des caractères assez forts, assez particuliers. Bon, j'ai déjà parlé de Roger Atikpo, c'est un comédien du Togo, qui a fait ses études au Togo, donc c'est pas un comédien africain, parisien, donc formé classiquement, simplement avec la black. Non, c'est quelqu'un qui a grandi théâtralement là-bas, donc en passant par le conte, en passant par formation. Moyennement académique, je suppose, en passant par la France, en travaillant pour différentes équipes, en travaillant pour en Belgique, pour ça. Donc il amène une culture étrange théâtrale. Ce n'est pas une culture colonisée, c'est un mélange de. Mais c'est une culture métissée théâtrale.
C'est pas Isaac Bancolé, même s'il a son compagnonnage avec Chéreau Coltès, c'est remarquable.
Oui, je ne connais pas, je ne l'ai pas connu comment il était à l'origine, disons. En tout cas, ce n'est pas un comédien, Roger Atikpo, ce n'est pas un comédien parisien de couleur noire. C'est un autre comédien.
Pour Marie
Marie, c'est Sonia Floiré, c'est une comédienne du Bénin, mais qui n'a jamais été au Bénin. Donc elle est parisienne, formée à Paris, avec des particularités. C'est métisse, spécialisée après, c'est drôle de voir dans son CV, c'est ça qui m'intéressait, spécialisée en danse polonaise. Donc je trouvais très intéressant qu'une fille métisse du Bénin s'intéresse à la danse polonaise ou en culture classique de piano au conservatoire. Donc j'ai cherché tous des comédiens qui ont quelque chose de particulier. Pour dans les rôles d'ici, des comédiens romans qu'on a, on a trois comédiens très intéressants, trois personnes de plateau, je pourrais dire. Bon, d'un côté, dans le tambour majeur, on a Vincent Fontana, c'est un jeune comédien, on l'a vu assez récemment, il a déjà joué avec moi moins de deux fois, donc c'est un comédien que j'estime, qui connaît ma façon de procéder, qui essaie, évidemment, il a la physique du rôle pour le tambour majeur. Il a la particularité, Vincent Fontana, à part le fait d'être le tambour majeur, d'être l'opposé au moment du travail. Il va revenir dans trois jours, donc à trois jours de la répétition d'un énième voyage au centre de la forêt du Brésil, où il travaille pour une espèce de théâtre de sensibilité écologique. Je viens de recevoir son dernier mail en disant, là je viens d'arriver à, je ne me souviens pas si c'était Olimpo, tout près de Recife, après 28 heures de bus. Donc ça veut dire qu'on ne parle même pas, je viens d'arriver à Rio de Janeiro, je viens d'arriver dans un bled après avoir fait 28 heures de bus. Et là il a vécu les derniers 3 mois en faisant donc c'est l'opposé du tambour major. C'est quelqu'un qui s'intéresse énormément à quel est notre rapport avec l'hémisphère sud. Et sur scène il va jouer l'opposé. Dans le docteur, il y a un intéressant métissage avec mon travail, parce que dans le rôle du docteur, on a Michel Barras, qui a un sacré caractère, qu'on connaît dans le milieu, et qui, voilà, après une certaine année, un petit peu d'absence des plateaux, il revient pour ce rôle. Je trouve qu'il a le caractère qui peut aller bien dans ce regard. Il a l'expérience et le caractère qui peut amener une expérience théâtrale qui précède la mienne, je pourrais dire, au niveau générationnel, au niveau culturel, qui précède la mienne, et qui peut se confronter bien avec des cultures théâtrales totalement opposées, comme celle de Roger Atikpo, qui vient du Togo, avec la mienne, qui est différente, avec celle de Vincent Fontana, qui appartient à la dernière génération. Dans Le Capitaine, on a un autre magnifique comédien de la région, particulier lui aussi, pas habituel, difficile à gérer, on pourrait dire, sur le plateau, c'est Jean-Paul Favre. Avec son amour inconditionné pour les Alexandrins et le théâtre, comme il faudrait le faire encore, comme le théâtre avant cette époque horrible des performances et du vide du théâtre contemporain, il se livre à une guerre totale contre ce type de théâtre soi-disant moderne, contemporain. Mais il a maintenant accueilli à l'Arsenic pour raconter ça dans une salle à l'Arsenic où on parle de ça. Donc, il est un très bon représentant et ça m'intéresse beaucoup son regard eurocentriste, totalement fait avec amour et évidemment ironie parce qu'il n'est pas dupe. Donc, déjà dans ces cinq, il y a une telle charge de culture théâtrale et de confrontations possibles.
Et puis alors, donc, il y a peut-être cette lettre, je ne sais pas si elle se retrouvera, mais cette lettre à, la fiancée, à sa fiancée de mars 1834, qui est très connue. Bon, c'est, il dit « L'individu n'est qu'une écume sur la vague, la grandeur un pur hasard, la souveraineté du génie une pièce pour marionnette », ça c'est aussi pour les directeurs de théâtre, « une lutte dérisoire contre une loi des reins ». La connaître, cette loi des reins, est-ce qu'il y a de plus haut? La maîtriser est impossible. Alors, la loi des reins, impossible à maîtriser, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans l'homme laboratoire, peut-être d'une autre manière, dans Nature morte avec Hoff, de manière plus tératologique, plus Todd Browning Freaks, et puis aussi dans l'homme réseau, qui est celui de Valparaiso. Vous avez toujours été intéressé par ce laboratoire humain, quand même, même si on peut reconstituer a posteriori une cohérence qui n'existe pas nécessairement dans les choix des pièces, mais on peut trouver quand même certaines passerelles entre ces pièces que je viens de citer.
Oui, comme vous dites, ça vient à limite a posteriori, parce que quand on le fait, on ne sait pas très bien le choix, mais avec les années, je peux, oui, commencer à me avouer à moi-même avant tout que je suis totalement intrigué par l'homme et le problème de comment s'adapter à la structure qu'il a autour. Si on regarde toutes ces pièces dans celle-là de Wojciech, on se retrouvera avec un homme d'un pays du Sud qui doit s'intégrer à sa dimension d'un Sud pauvre et sa confrontation avec le blanc. Dans le Tennessee Williams qu'on vient de terminer de jouer, ben, on a des hommes qui doivent s'adapter à cette structure des médias, à cette structure de l'homme qui est reproduit à l'écran et qui de sa grandeur mythique, etc. Et cette confrontation à une industrie. Hein. En tout cas, le monde est une industrie de quelque chose. C'est une industrie cinéma, une industrie de consensus, une industrie historique, une industrie politique, c'est une industrie, et l'individu doit se confronter avec ça, s'adapter. Ça. Le Grand Cahier est une œuvre dans laquelle deux jeunes gamins doivent s'adapter à l'industrie de la mort et de la guerre et de la violence des adultes. Dans la tourmente avec Hoff, voilà, en industrie. Oui, c'est vrai, je dirais, l'homme qui se confronte à l'industrie, dans son sens vaste du terme, c'est une thématique qui m'a toujours intrigué. Mais à part ça, je pourrais dire, est-ce que le théâtre raconte autre chose que ça? Ou est-ce que l'histoire de toute écriture raconte autre chose que ça? Peut-être que je m'intéresse seulement à ça, à ce qui est habituel. Ou peut-être que c'est les formes qui prennent des formes un petit peu plus déclarées, que ça se lit plus dans le montage, que c'est vraiment ça qui me tracasse, ou qui m'inquiète, ou qui me trouble, ou qui me trouve sensible.